Happy Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien. De plus en plus des sextapes ou images pornographiques impliquant des autorités et personnalités publiques circulent sur Facebook ainsi que dans d'autres plateformes. La vidéo d'une affaire sexuelle survenue récemment à Matadi fait couler beaucoup d'encre et des salives. Au cœur du scandale se trouve le vice-gouverneur de la province du Congo central. Ce dernier a été filmé nu dans l'appartement de l'assistante du gouverneur qui l'accuse de viol. Que prévoit la loi congolaise par rapport à ce genre de cas d'atteinte à la moralité publique. Vos réactions sont les bienvenues dans cette émission de la vie au quotidien. Composez déjà le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Maître Jean-Claude Katende, vous êtes président national des LAZADO. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
L'atteinte à la moralité publique, pouvez-vous nous définir ce concept?
Vous savez que il y a une moralité familiale, mais il y a aussi la moralité publique qui veut tout simplement dire que nous avons vis-à-vis de l'opinion publique un certain comportement que nous devons adopter. Un comportement qui ne doit pas heurter la morale des autres, qui ne doit pas heurter la dignité des autres. Et tous ces éléments rentrent dans ce qu'on peut appeler moralité publique.
Voilà. Et la loi congolaise, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à l'atteinte à la moralité publique, justement?
Il faut dire d'abord que dans le cas qui nous concerne, les fonctions des agents de l'État, ce ne sont pas des fonctions qui s'exercent de manière, je dirais, libre. Ce sont des fonctions qui sont encadrées. Mmh. Et les fonctionnaires de l'État, dont les autorités politiques que nous avons, sont soumises, les autorités donc, à une conduite et à des devoirs bien précis, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Mmh. Et quand vous prenez, par exemple, la loi qui porte statut des agents de carrière de l'État, son article 107 insiste sur les devoirs pour toute autorité, tout agent de l'État, de servir l'État avec fidélité, dévouement, dignité et intégrité. Et ici, moi, je voudrais prendre seulement dans cette disposition de la loi deux mots. Le premier, c'est la dignité. Ça veut dire, en d'autres termes, que quand vous êtes un responsable politique, vous devez avoir une conduite qui ne vous discrédite pas vous-même vis-à-vis de vos concitoyens, vis-à-vis de la population. Donc vous devez vous conduire avec respect. Et en même temps, nous pouvons considérer aussi la dignité comme étant une valeur qui nous permet de pouvoir nous accréditer devant les autres comme des citoyens ou comme des citoyennes qui méritent les fonctions que nous exerçons. Le deuxième mot, c'est l'intégrité. L'intégrité, en fait, c'est cet état qui vous met dans une situation où vous n'avez pas des taches sur vous, des marques exemplaires. Vous devez avoir une conduite qui vous met au-dessus des autres. Vous voyez? Et quand vous allez dans la même loi un peu plus loin, il est dit à l'article 108, il est tenu, c'est-à-dire l'agent de l'État, d'éviter dans son service, comme dans la vie privée, tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public. Parce que, en tant que fonctionnaire de l'État, le public vous fait confiance. Et vous devez éviter tout acte, toute parole, tout geste de nature à rompre cette confiance, n'est-ce pas, du public. Et c'est effectivement ce qui est arrivé dans le cas du Bas-Congo, où vous entendez...
Du Congo central.
Du Congo central, exactement.
Oui.
Dans le cas du Congo central, où d'autres citoyens ont dit, il faut faire des marches pour que toutes ces personnes impliquées dans cette affaire sur le vice-gouverneur puissent démissionner ou qu'il soit révoqué. Vous voyez que là, la confiance contenue de l'acte qui est arrivé entre le public et l'autorité, la confiance est rompue. Mais il est dit aussi qu'il doit éviter tout acte qui pourrait compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions. Ça, c'est très intéressant.
Mmh. Très intéressant. Tout acte qui peut compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions.
L'honneur et la dignité de ses fonctions. Ça veut dire, en d'autres termes, que en tant que vice-gouverneur, en tant que gouverneur, il y a un honneur qui est attaché à cette fonction. Mmh. Alors, il ne faut pas que tu aies une conduite qui supprime cet honneur ou qui le réduit. Et ça, c'est intéressant. Et à la fin, c'est aussi une fonction qui vous donne un certain rang. Hein? Parce qu'on revient toujours sur la dignité. Donc, vous ne devez pas poser des actes qui compromettent l'honneur et la dignité de la fonction. Aujourd'hui, vous allez voir que dans nos milieux, vous avez des fois des fonctionnaires qui s'enivrent, publiquement. Ce sont des actes qui sont en fait interdits parce que ce sont des actes qui portent atteinte à l'honneur
et à la dignité de la fonction.
Même si de plus en plus ces actes semblent être tolérés par les publics, mais par rapport aux lois de la République démocratique du Congo, ce sont des actes qui ne sont pas acceptés, surtout pour des personnes à qui la nation a fait confiance en leur confiant des responsabilités importantes comme celles des gouverneurs et des vice-gouverneurs.
Mais pour ce qui est arrivé dans la province du Congo central, il semble que le vice-gouverneur a été tout simplement été victime d'un complot organisé par son titulaire.
Bon, ce qui est vrai, c'est que
aujourd'hui, c'est pas lui qui a mis ces images dans les réseaux sociaux, sur la place publique.
Oui, mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut que la justice s'intéresse à cette affaire pour élucider tous les contours de l'affaire. À première vue, c'est vrai que c'est un piège, mais moi j'estime que le vice-gouverneur avait des prédispositions à faire avoir une telle attitude. D'abord, de un, comment, par rapport à ce qui est dit dans la loi, le vice-gouverneur peut faire la cour à l'assistante de son chef. Parce que déjà, même dans les relations avec les subalternes, le vice-gouverneur, en tant que fonctionnaire de l'État, doit toujours avoir une conduite qui sauvegarde son honneur et sa dignité. Donc, à ce point de vue, le vice-gouverneur a déjà péché. De deux, il s'est retrouvé dans l'appartement de la dame.
De l'assistante.
Mais ça, c'est encore un fait grave. Comment il s'est retrouvé là-bas? Est-ce qu'on l'a pris de force? C'est que je ne pense pas. Ça veut dire en d'autres termes que lui-même, il avait déjà des prédispositions à faire ce genre de choses parce qu'il avoue dans ses interventions, il avoue dans son intervention quand il dit que c'est pas la première fois, nous avons déjà fait l'amour ensemble. C'est que lui-même, il se compromet et plus tard il dit, je suis une personne mariée, je n'aurais pas dû faire ça. Vous voyez?
Oui.
Donc, là, d'abord, c'est ce qui concerne la personne elle-même avant de parler du complot. Je pense que le complot est arrivé après que plusieurs autres actes dont lui-même parle soient arrivés. Et maintenant, si le complot s'avère vrai, parce qu'il y a quand même des éléments dans la vidéo qui démontrent qu'il y a eu complot, l'intervention du responsable de l'ANR pour le Congo central, il y a éléments de la police qui étaient et la dame elle-même était en train de filmer la scène.
Après avoir maîtrisé le vice-gouverneur.
Après avoir fait maîtriser le vice-gouverneur nu, ça il faut le mentionner, sans habit. C'est quand même grave parce que là, on l'a traité de manière à violer la Constitution qui veut que à chaque instant, la personne, quel que soit ce qu'elle a fait, soit traitée avec dignité, soit traitée non pas de manière dégradante, mais soit en fait traités avec dignité, parce que nous ne devons pas oublier que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit la présomption d'innocence.
Alors, dans ces cas-là, est-ce qu'il faut parler tout simplement de l'atteinte à la moralité publique où il y a plusieurs infractions réunies dans cette situation, dans cette affaire-là?
Non, je pense qu'il y a plusieurs infractions réunies dans les chefs de chacune des personnes intervenues.
Mais... D'accord, maître, je reviens à vous, le temps d'accueillir les auditeurs qui appellent déjà pour poser des questions. Nous avons Joseph Kabunyai de Kananga, Augustin Lukadi est à Kananga aussi, et maître Ngandou qui nous appelle de Kinshasa. On commence avec vous, Joseph, bonjour. Bonjour Joseph. Il n'est plus en ligne. On va prendre Augustin de Kananga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à maître Jean-Claude Katende.
Quelle est votre préoccupation?
Voilà, avant peut-être de passer à la préoccupation, je vous dis merci pour les sujets choisis. L'atteinte à la moralité publique reste, selon moi, un grand concept. Et la moralité est aussi une manière de vie dans la société ou soit dans la communauté. Alors maître l'a bien souligné là que la loi congolaise semble être, semble tout régulariser. Mais à mon humble avis, je vois que la loi congolaise aussi semble être à côté, car les devoirs et la conduite des autorités dans leurs activités posent d'énormes problèmes. Les cas de Bas-Congo, là, vous êtes en train de les signaler, Congo central plutôt. On voit que la conduite de nos autorités, parfois, n'est pas bonne. Alors, j'ai une petite question seulement à poser. Je voulais que maître nous dise, si les autorités qui ne respectent pas la dignité des citoyens ou citoyennes congolais ou congolaises, quelles sont les sanctions que prévoit la loi congolaise en cette matière? C'est bien, je vous remercie.
Merci Augustin. Maître Ngandou, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody.
Quelle est votre préoccupation? Oui, maître Ngandou, vous êtes là? Voilà, il n'est pas là sur moi, il y a eu quelques petits soucis au niveau de la liaison téléphonique. Maître Jean-Claude, vous avez la parole.
Oui, je voudrais remercier d'abord l'auditeur qui a posé sa préoccupation. La première chose que je voudrais souligner, c'est que dans la tête de chacun de nous en tant que Congolais, nous devons considérer qu'il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus de la loi. Et je rappelle que même le président de la République, dans son serment, il est mentionné à la fin qu'il est serviteur du peuple. Ça veut dire en d'autres termes que le président de la République, même lui-même, n'est pas au-dessus de la loi. Et que chaque fois qu'une autorité commet des actes répréhensibles par rapport à la loi de notre pays, la victime doit se plaindre devant les tribunaux, devant le parquet, devant les magistrats. Et le magistrat aussi doit avoir le courage, sauf bien sûr pour les autorités qui sont porteurs des immunités, comme les parlementaires, il y a une procédure. Mais cette procédure ne vous prive pas de votre droit en tant que victime de pouvoir vous plaindre. Ce qui arrive le plus souvent, comme dans le cas du Congo central, c'est que l'assistance pouvait, dans le cadre de la protection de son service, tout simplement se taire. Et nous pensons que dans beaucoup de bureaux ici, il y a beaucoup de choses qui se passent avec les autorités, mais les victimes se taisent. Mmh. Donc nous devons
considérer... Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux?
Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux? Mais c'est comme ce qui s'est passé au Congo central.
Les bureaux sont transformés en chambres d'hôtel
Effectivement, en chambres d'hôtel. Tel ou en chambre des commissions des actes immoraux. Là, c'est plus général.
Oui.
Et donc, les victimes, souvent, pour protéger leur travail, se taisent. Ce qui n'est pas bien. Parce que quand vous vous taisez, la conséquence est que ça continue. Maintenant, en suivant chaque acte posé par l'autorité, il y a toujours, au niveau de la loi pénale, des sanctions qui sont prévues.
Alors, avant de parler des sanctions, nous allons accueillir Idi Ramazani, qui nous appelle de quelle ville? De Kindu, voilà. Idi Ramazani, bonjour. Idi Ramazani, bonjour. Idi, vous êtes en ligne? Voilà, il n'est plus là. Je reviens à vous.
Donc, je disais que...
Quelles sont les sanctions qui sont prévues?
Les sanctions... D'abord, il y a des sanctions pénales au regard de tous les actes. Ça peut être des actes d'harcèlement. Et nous savons que dans notre code pénal, l'harcèlement est considéré comme une infraction par rapport à la loi. Ça peut être, par exemple, une autorité qui gifle son subalterne. Mmh. Nous savons que les coups et blessures sont condamnés par la loi congolaise.
D'accord, un instant, on va accueillir Maître Ngandou de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
La première préoccupation, c'est que nous parlons de, comme vous l'avez dit, l'atteinte à la moralité, c'est ce qui est une infraction. Mais il y a un cas spécifique du Congo central que vous avez évoqué. Je voulais d'abord commencer par là pour dire que, à mon avis, il doit y avoir l'infraction de l'imputation dommageable. Hein, à l'encontre de ceux qui ont fait que les acteurs de cette pratique-là que je considère d'intime, ceux qui ont mis ça sur la voie publique. Et je sais aussi que, par rapport à la nouvelle technologie, il n'est pas difficile de connaître par quel compte, par quelle page la vidéo a été ajoutée dans la plateforme. C'est de là qu'on devrait suivre ces gens-là qui ont d'abord, à mon avis, mis cette vidéo sur Facebook et leur interroger quelle était leur intention. Moi, je pense que c'était l'intention de nuire à la réputation de ces messieurs-là. Et puis aussi, quand vous dites que ça s'est passé dans un bureau, il y avait des acteurs en présence. Donc, je pense que dans le cas d'espèce, il y avait caméra de surveillance. Et il ne faut pas ignorer que dans les bureaux actuels, la majorité des bureaux, comme on l'a dit, beaucoup de choses se passent là-bas, mais comme il n'y a pas de caméras, on ne sait pas voir, et surtout que ce sont des pratiques consentantes et puis intimes. Hein. Mais dans les cas d'espèce, il faut demander à la dame là qui crie au viol quelle intention qu'elle avait de filmer cette action. Et puis, même s'il y a viol, ce n'est pas à nous de dire, mais il faut que la justice soit saisie. Pour qu'ils puissent déterminer qui avait fait quoi et pourquoi tout cela. Mais au-delà de cela, je vais vous dire aussi qu'il y a un aspect très politique sur la moralité des gens qui nous gouvernent actuellement concernant la bassesse dans la gestion. Aussi, on peut dire que les institutions sont animées par les gens qui se distinguent dans des choses primaires, dans des choses...
Dans l'immoralité.
Oui, des choses primaires. Quand je dis des choses primaires, là, je fais allusion. Par exemple, imaginez qu'ils sont plus dans des danses, vous voyez, ils sont aussi avec des artistes musiciens, ils sont avec des femmes, des garçons. Ils ne sont pas des gens pensants, hein. Même si on dit gestion, gestion, c'est vraiment très difficile avec ces poutres.
D'accord. Merci, Maître Gaston. On va accueillir les autres qui attendent. Merci beaucoup. On va accueillir Idi Ramazani de Kindu. Bonjour. Idi Ramazani, vous êtes là? Il n'est plus là. Serge Kingi de Kindu, bonjour. Serge, bonjour. Décidément, aujourd'hui, qu'il y a quelques soucis avec les lignes téléphoniques. Je reviens à vous, maître Jean-Claude Katende. Vous étiez en train de parler des sanctions, d'abord.
Elles sont prévues par la loi. Je vais sauter sur l'intervention de tout à l'heure pour dire que la question d'imputation dommageable, c'est pour moi une question... toujours de beaucoup de discussions dans la mesure où dans notre loi, même si vous dites la vérité contre une personne, vous serez toujours puni, ce qui n'est pas bon. Ça veut dire en d'autres termes que si vous êtes au courant que telle personne a détourné l'argent de l'État, si vous les dénoncez, on va le verser toujours dans les imputations dommageables alors que c'est vrai et vous serez puni. Si ces faits est de nature à porter atteinte à la réputation de l'intéressé. Et je pense que c'est une notion qu'il faut revoir. Parce qu'elle est de nature à protéger les gens qui s'adonnent à des actes qui sont punissables par la loi. Et dans le cas où une personne impute un fait pour dénoncer un fait qui est vrai, je pense que cette personne devait être protégée par la loi. Et là, je pense que la législation congolaise doit pouvoir évoluer.
Alors d'après Maître Ngandou, c'est la personne qui a mis la vidéo sur la place publique, qui a publié la vidéo dans les réseaux sociaux, qui doit être condamnée.
Oui, tout à fait, mais cette personne a dénoncé un fait vrai. Cette personne a dénoncé un fait vrai. Ça veut dire en d'autres termes que la loi ne protège pas la personne qui dénonce un fait vrai. Parce que la personne va être certainement, au regard de la législation congolaise aujourd'hui, poursuivie et condamnée sur base de l'imputation dommageable. Mais est-ce que l'effet lui-même qui est dénoncé est vrai ou faux? Je pense personnellement qu'il faut évoluer, aller avec les imputations dommageables vers un fait qui est faux. Parce que aujourd'hui, vous voyez, même si vous dites que telle personne, je l'ai vue en flagrance d'adultère avec telle femme dans son bureau, ces faits portent atteinte à la réputation de la femme et de la personne. Et c'est un fait vrai.
Oui.
C'est un fait vrai. Et le fait de ne pas les dénoncer encourage la pratique. Parce que la personne va toujours se réveiller pour dire ce qu'on a dit contre moi, c'est faux, patati patata, imputation dommageable, parce que ça porte atteinte à ma personne. Je pense que là, il faut quand même que la législation congolaise évolue, surtout compte tenu de l'environnement dans lequel nous sommes. Mais au regard de la législation aujourd'hui, la personne qui a diffusé cette information va être poursuivie par la justice et éventuellement condamnée, parce que il faut voir que l'intention quand même était de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du vice-gouverneur.
Maintenant, par rapport aux acteurs, le vice-gouverneur, on cite également le gouverneur qui tirerait les ficelles dans l'ombre, ainsi que l'assistante et les autres personnes qui étaient là. Quelles sont les sanctions qui doivent être quelles sont les sanctions prévues par la loi pour ce genre de situation? Il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour dire que toutes ces personnes doivent démissionner et d'autres doivent être arrêtées clairement.
Oui, moi je suis d'avis personnellement que, compte tenu de ce que je venais de dire en termes des devoirs des agents de l'État, ces personnes devaient d'abord par elles-mêmes démissionner. Le gouverneur, le vice-gouverneur, le responsable de l'ANR Congo Central, la policière qu'on a vue là-bas en train de maîtriser les vice-gouverneurs.
Tout
et
nu.
Le gouverneur, oui, tout nu. Et le gouverneur lui-même. Mais malheureusement, cela ne s'est pas fait. Ce qui devait arriver après, ça devait être la suspension. Chaque autorité hiérarchique des personnalités mises en cause devait prendre d'abord la décision de pouvoir suspendre ces personnes avec interdiction de ne plus mettre pied dans leur bureau. Parce que, en fait, si vous suivez l'affaire, vous allez constater que quelques jours après, le vice-gouverneur a fait un pas vers le gouverneur pour la réconciliation. C'est une tentative d'effacer les traces de ces infractions qui ont été...
On les a vues en train de donner des accolades.
Oui. Oui, donc il y a là une intention d'effacer les traces, mais aussi une intention de protéger son travail. Alors qu'on s'est rendu indigne, on s'est rendu... on a perdu l'honneur et la dignité liées à la fonction. Et ici, il faut féliciter surtout les organisations des femmes qui ont pris position de manière courageuse et elles ont été les premières à demander à ce que toutes ces personnes soient renvoyées et que la justice se saisisse de l'affaire. Alors que d'autres groupes ont commencé à jouer sur la fibre tribale en disant voilà des bas fleuves, des gens de cataractes
en veulent tout ça
mais je suis content de voir que tous ceux qui interviennent dans cette question ont pris de plus en plus conscience que c'est une affaire qui ne concerne pas une tribu contre une autre, mais c'est une affaire qui concerne tous les Congolais. Ce n'est pas une affaire des bas congolais, des bas congolais, je voulais dire, mais c'est une affaire qui concerne la nation. Parce que le gouverneur et les vice-gouverneurs, même s'ils sont du Congo central, ce sont les autorités de l'État congolais. Ces autorités représentent toute la République. Parce que si nous ne prenons pas les choses de cette façon-là, ça ne va pas du tout marcher. Je pense qu'il est extrêmement important que les gens considèrent que quand ces personnalités se sont adonnées à des actes répréhensibles par la loi, n'ont pas consulté leur tribu. Hein, pour dire, voilà, moi je suis de bas fleuve, est-ce que vous me permettez d'aller faire ce que j'ai fait? Personne n'a consulté sa tribu. Donc oui. Nous devons, si nous voulons la construction d'un état de droit, nous devons absolument laisser ces personnes devant la justice.
D'accord, on va accueillir d'autres auditeurs. Il y a Justin en ligne et Moubi nous appelle de Walikale au nord Kivu. Justin est dans quelle ville? On va nous le préciser tout à l'heure. On va accueillir d'abord Moubi qui est à Walikale au nord Kivu. Bonjour Moubi.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour également.
Voilà, pardon, c'est plutôt, c'est Justin Olivier qui est à Moubi, voilà. Justin Olivier, vous êtes à Moubi, bonjour, quelle est votre question par rapport à cette question que nous abordons aujourd'hui?
Oui, merci, monsieur le journaliste. Je voulais dans un premier temps saluer le maître qui est en train de nous expliquer tout ce qu'il... Il comprend par l'immoralité publique. Bon, voilà, mon point de vue serait de demander le problème des images, mais aussi des vidéos sur des réseaux sociaux. Et selon moi, c'est un sujet à vérifier, et surtout à la République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai dit ça? Tout le monde peut se réveiller dans son lit et publier ce qu'il veut à un réseau social qu'il utilise. Alors, avec la lire, où vont les choses? Je suis en train de réaliser que dans le futur, la République démocratique du Congo serait un pays encourageant beaucoup plus des antivaleurs et surtout que nous sommes en train de parler de l'immoralité publique.
Alors Justin, quelle est la question que vous adressez à Maître Jean-Claude? Rapidement, quelle est la question que vous adressez à Maître Jean-Claude?
Voilà, ma question au Maître Jean-Claude est celle-ci. Est-ce que la loi congolaise a eu le temps de prévoir, de faire un suivi normalement pour tout ce monde-là qui publie du n'importe quoi aux réseaux sociaux?
Bien, merci beaucoup. On va accueillir Kachai de Kanyoka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à maître Jean-Claude.
On vous écoute.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant d'aborder directement la question, je m'en vais tout droit en France. Le directeur général du Fonds monétaire international à son époque, Dominique Strauss-Kahn, s'était retrouvé dans les mêmes circonstances où se trouve aussi le vice-gouverneur du Congo central, M. Jody. Lorsque l'acte qu'il avait perpétré a été porté à la connaissance des autorités, non seulement du pays, mais aussi judiciaire de ce pays-là, M. Dominique Strauss-Kahn s'était vu sanctionné d'abord à la tête du Fonds monétaire international où il était directeur, il était déchu, et en plus, une procédure a été amorcée à son endroit pour pouvoir élucider les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé. Alors, maintenant, ici chez nous, le cas sera bien vérifié, la vérité sera décelée lorsque le procureur général pourra diligenter les enquêtes, les poursuites judiciaires à l'endroit du vice-gouverneur pour que le vice-gouverneur lui-même, avec aussi toutes les images publiées sur les réseaux sociaux, puisse commencer à démontrer au procureur ce qui était arrivé. C'est ça. Maintenant, quand nous dénonçons et que le juge, ou soit les procureurs généraux, ne saisit pas du dossier, alors, je ne sais pas, c'est un acte d'impunité que nous sommes en train d'observer. Parce que jusqu'alors, depuis que les images ont été publiées, le vice-gouverneur n'est pas inquiété. Il est toujours en fonction. Un autre aspect, c'est quoi, M. Jody? Beaucoup d'autorités que nous avons ont des protocoles qui s'habillent d'une manière sexy. Dans beaucoup de postes, vous allez trouver les autorités, les protocolaires, ils ont toujours un peu un habillement là très sexy, surtout les filles. Et puis ils tolèrent un acte accepté et toléré par ces autorités-là. Parce que quand vous venez pour entrer dans votre bureau, c'est les protocoles qui ouvrent. Vous voyez comment elle s'est habillée. Quand vous sortez, vous voyez. Quand vous vous promenez avec elle, vous voyez. Alors, vous acceptez l'acte et vous tolérez. Vous minimisez les risques dans le sens que un jour, cet habillement-là pourrait vous séduire. Comme vous êtes un humain et vous avez des sensations corporelles, vous pouvez tomber. Et quand vous tombez, sachez très bien que déjà, vous froissez la conscience du monde que vous dirigez. C'est ce que les autorités ne tiennent pas aussi compte. Alors, je voulais demander à Maître, l'acte est déjà perpétré,
oui.
Les images sont publiées. N'y a-t-il pas moyen, parce que les procureurs doivent être informés du dossier, soit par la saisine d'office, soit par la dénonciation, soit par la plainte. Maintenant, il n'y a ni plainte, ni saisie d'office, mais il y a dénonciation. N'y a-t-il pas moyen que les procureurs près la Cour de cassation puissent diligenter directement les poursuites à l'endroit du vice-gouverneur? Pourquoi il est encore en fonction jusqu'à ces temps-ci? Les gens ont marché, alors même les pouvoirs politiques ne réagissent pas. Donc, ce sont des actes qui se commettent au jour le jour et tolérés par non seulement les autorités judiciaires et aussi les autorités politico-administratives de notre pays. Merci.
Bien, on va accueillir Malonga de Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre préoccupation?
En tout cas, ma préoccupation d'abord, c'est en l'air. Je vois que les grandes autorités, que la population compte, sortent de mauvaises intentions comme ça, en tout cas, c'est regrettable. Mais je crois que mes confrères et l'invité a tout commenté là-bas. Mais je vois en moi, ce sont des mauvaises images qui animent ces autorités-là. Donc, ça s'affiche entre eux, ils ne s'aiment pas. Mais s'il y avait d'amour, on ne pouvait pas afficher cela. On pouvait seulement attendre des soupçons que non, il y avait tentatif de viol, ceci, cela. Mais suivre tout ce que nous avons suivi, le monde entier, en tout cas, c'est honte. Ce que je veux demander comme ça, est-ce que, en tout cas, c'est un montage vraiment bien organisé? Selon ce que moi, je constate. Bon, ce que je vais poser à l'invité, c'est reste maintenant à savoir comment, dans notre société, nous allons vivre si nous sommes toujours animés de mauvaises humeurs ou bien de mauvaises...
Oui, Malonga, d'après vous, c'est un montage pour salir le vice-gouverneur, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Malgré le vice-gouverneur a commis cette erreur, puisque l'erreur est humaine. Mais, eux le gouverneur, eux le cabinet, et d'autres entourages, comme les autorités, ne peuvent pas afficher de telle manière contre une autre autorité. Et puis, il n'y a aucune chose qui prouve que c'est une erreur. Juridiquement par là, nous voyons, oui, des jeux sociaux, nous savons ce qui se passe là-bas. Il y a des montages, beaucoup de montages dans des réseaux sociaux. Alors, si vous condamnez le vice-président de telle manière, en tout cas, je dis, vraiment, la justice, c'est par là où nous avons connaître notre justice congolaise, si elle est vraie ou bien juste ou bien fidèle.
D'accord. Merci Malonga. Merci Malonga. Je m'en vais rapidement lire les réactions des quelques internautes. Jonas Mombo nous a écrit depuis Guémena. Personne n'est au-dessus de la loi. Bien sûr que le plaisir est un droit et voilà comment le vice-gouverneur n'a pas pu gérer ses sentiments jusqu'à tomber dans le piège de son titulaire. À mon avis, cet acte mérite l'ouverture d'un dossier judiciaire. Dieudonné Polias Kabeya de Kananga. Les cas d'immoralité et viol sont devenus fréquents parmi les autorités politico-administratives. Même les chefs coutumiers se livrent à la débauche avec des mineurs. Vous pouvez trouver un vieux papa des 65 ans prendre une fille des 17 ans. Il est important de se pencher sur ce problème, sinon ça va détruire le pays. Maître Jean-Claude Katende.
Et je dois d'abord dire merci à tous ces auditeurs qui sont intervenus. Il y en a qui ont mis en cause les réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux ne sont pas en eux-mêmes une mauvaise chose. Parce que on peut les utiliser aussi pour réaliser beaucoup de bonnes choses dans le cadre de son travail ou dans le cadre de la vie courante. Mmh. Et je pense personnellement que pour des personnes qui font des montages contre les autorités ou contre d'autres citoyens, il faut que notre législation prenne en compte aussi cette criminalité au niveau des réseaux sociaux. Je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire sous examen, il est quand même important ici de féliciter d'abord certaines populations du Congo central qui ont pris la position contre l'un et contre les uns et contre les autres pour que tout ce soit amené devant la justice. Et j'informe les auditeurs de la radio Okapi que ce dossier est déjà en train d'être instruit en justice. Et comme quelqu'un l'a souligné, nous avons besoin de voir comment l'État, de manière générale, et la justice, de manière particulière, vont pouvoir conduire ces dossiers jusqu'à ce qu'une décision judiciaire soit connue de tous les Congolais.
Mais vous savez, à l'époque, il y a quelques années, un vice-ministre a été fait. On a vu la vidéo d'un vice-ministre en train de se masturber dans son bureau, et juste après, il y a eu une décision, il a été révoqué.
Oui, mais il a été révoqué, mais le problème, c'est qu'il n'a pas, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire contre cette personne. Et c'est ça le malheur de la République démocratique du Congo, c'est de s'arrêter à la décision administrative. Il faut qu'il y ait des conséquences au niveau judiciaire pour que la personne réponde de ses actes, soit sur le plan financier, condamnée à payer des amendes, soit à aller en prison. En ce moment-là, je crois que ça va donner des leçons. Je vous dis qu'aujourd'hui, un des auditeurs l'a souligné, il y a beaucoup d'administrateurs des territoires qui sont devant la justice pour avoir violé des jeunes filles dans leur propre territoire, ce qui est inadmissible parce qu'une autorité a d'abord comme responsabilité de protéger les citoyens. Mais si ce sont les autorités qui abusent des besoins de certaines jeunes filles, de certaines femmes, les besoins en termes de travail, parce qu'une personne vient solliciter le travail au poste que vous occupez, pas un poste chez vous en tant que privé, mais en tant qu'autorité. Et il y en a qui marchandent les postes avec les plaisirs sexuels.
Oui.
Il y en a qui marchandent les points avec les services sexuels. Il y en a qui marchandent les inscriptions dans les universités avec les services sexuels. Ce qui est inadmissible parce que nous occupons une fonction publique.
Et Kachaï a déploré que le fait que vous allez dans les ministères, dans les bureaux des autorités, vous trouvez les protocoles habillés en tenue sexy et les autorités tolèrent cela.
Oui, mais je pense que vous ne pouvez pas violer une femme en prenant comme raison la manière dont elle est habillée. Vous voyez, il ne faut pas que cela soit une raison. Moi, je le dis toujours. Nous voyons des fois dans nos familles des jeunes filles qui sortent de la salle de bain avec la serviette entre
la poitrine.
Oui, au niveau de la poitrine. Et c'est pour autant que tu sautes dessus parce que c'est une femme. Comme si nous savons nous retenir quand il s'agit de nos sœurs, de nos enfants, tout ça nous pouvons aussi le faire sur les lieux publics. Mmh. Mais ici, je reviens aux jeunes filles elles-mêmes. En tant qu'une personne adulte, je dois savoir m'habiller de manière décente. Ça, c'est important.
Alors, maître, pardon, un instant, on va accueillir Dieudonné qui nous appelle de Bukavu et je reviens à vous tout à l'heure. Dieudonné, bonjour. Dieudonné, bonjour, vous êtes en ligne depuis Bukavu. Dieudonné, vous êtes là? Voilà, Dieudonné, peut-être qu'il est, il n'est pas collé à son téléphone. Je m'en vais rapidement lire la réaction de Norbert Kasanga de Kamina dans le Haut-Lomami. Cela est la preuve que les hommes politiques sont des vrais prostituées et cela constitue la faiblesse de plus ou moins 80% des hommes politiques. Mais selon la loi, le vice-gouverneur ne doit pas être poursuivi parce qu'il y a eu un consentement. Il y a eu consentement de cette femme et puis elle n'est pas mineure. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Norbert?
Non, je pense que ce que je dis à Norbert, c'est qu'on peut violer même sa propre femme. Quelqu'un marié peut violer sa propre femme s'il force cette femme à avoir des relations sexuelles avec elle alors qu'elle ne veut pas. Vous voyez? Et donc, je dis ici tout simplement que si cette femme était consentante, tout ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Donc, quelque part, il y a eu un manque de consentement. Et ce manque de consentement a conduit à ce que nous déplorons aujourd'hui. Et je pense que dans le contexte de notre pays, pour assainir la vie publique, il est important que la justice joue pleinement son rôle.
Qu'est-ce qui doit être fait normalement? Tous doivent démissionner et on doit leur intenter un procès.
Mais la justice, comme elle est en train de faire le travail des les auditionner, nous voulons que les dossiers soient fixés devant la cour et que ces personnalités répondent effectivement de leurs actes. Et comme je l'avais déjà dit, le problème chez nous, c'est qu'on s'arrête à la décision administrative, la révocation. Mmh. La révocation ou la suspension n'est pas une décision suffisante. Si les faits sont établis en droit et qu'il y a effectivement une infraction, il faut que l'autorité, quelle qu'elle soit, puisse répondre de ses actes devant la justice. Et c'est là le combat que nous, les organisations de droits de l'homme et d'autres institutions, nous menons pour que chaque autorité se mette en tête qu'elle n'est pas au-dessus de la loi, et les citoyens doivent considérer aussi que les autorités ne sont pas nos patrons. Ça, c'est très important. Une autorité n'est pas mon patron. Une autorité est placée là-bas par le mandat des citoyens et il a le devoir, l'autorité a le devoir de rendre des comptes aux citoyens et sa fonction est encadrée par les lois. Et que chaque fois qu'une autorité se comporte de manière à violer la Constitution et les lois de la République, nous avons le devoir en tant que citoyens à les dénoncer. Et ici, il faut noter que je peux dénoncer un fait sans manquer du respect à une autorité. Et le fait pour moi de dire que le vice-gouverneur a commis un acte répréhensible, je ne lui manque pas de respect, de politesse, mais je dis tout simplement qu'il s'est mal conduit par rapport aux fonctions qu'il occupe.
On va accueillir Glody Bouanganga de Bandundouville, atteinte à la moralité publique, que dit la loi congolaise à ce sujet. Glody, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question par rapport à ces sujets?
Oui, merci beaucoup. J'ai juste de petites questions que je vais poser à notre invité là qui est au studio. Messieurs les journalistes, vous savez, ce phénomène-là est vraiment pratiqué sur toutes les candidats de la République démocratique du Congo. Les autorités se livrent dans des débauches, par exemple, si quelqu'un veut chercher l'emploi chez lui, et même dans des milieux universitaires, ce phénomène-là passe vraiment. Alors, quelles sont les sanctions que la loi prévoit par rapport à cet fait-là? Parce que c'est une infraction qu'il a commise, et il y a même des preuves palpables, il y a des vidéos partout, parfois, il y a certains cas qui sont déjà passés, il y a certaines personnes qui ont fait ça. Alors, quelles sont les pénalités que la loi prévoit par rapport à cette infraction? Parce qu'aujourd'hui, si on sanctionne quelqu'un qui a fait des bêtises comme ça, je crois que ça peut éduquer les autres de ne plus le faire. Donc je crois que c'est que j'ai juste des questions que je peux poser à notre invité. Je vous remercie.
Bien, merci. Maître Jean-Claude Caténier.
Bon, je vois que notre auditeur revient sur la même question. Mmh. Et comme je le disais, pour ceux qui ont posté la vidéo, ils peuvent être suivis pour imputation dommageable. Et moi, les contours de cette fraction me posent toujours des problèmes, comme je l'avais déjà souligné, parce que cette infraction ne protège pas celui qui dénonce un fait vrai. Et dans le cas d'espèce, le fait qui a été dénoncé est vrai, mais dans la situation actuelle, ceux qui ont filmé et diffusé cette vidéo qui porte atteinte à l'honneur du vice-gouverneur sont poursuivables devant notre justice. Il faut aussi dire que le gouverneur peut être aussi poursuivi en rapport avec le code pénal congolais qui réprime le harcèlement sexuel. Et dans le cas d'espèce, lui en tant qu'autorité, faisant cours à cette dame, et la dame, par rapport à ce qui est dit, n'a pas été consentante, il peut être poursuivi pour harcèlement sexuel. Et ces genres d'infractions sont même prévues non seulement pour le gouverneur, les autorités, mais c'est pour tous les citoyens dans le cadre professionnel. Mais ça couvre aussi certains actes que les professeurs peuvent poser dans les universités à l'égard non seulement des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi des homosexuels dans notre société, même si on ne les accepte pas.
Mmh. Michael Bayenga nous a écrit sur Facebook, il dit « Quand l'honorable Mende a voulu fermer Facebook, vous l'avez traité de tous les maux. Voilà aujourd'hui, toute la nation est humiliée. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à Michael?
Bon, je pense que l'observation de Michael me pousse à aller trop loin. C'est-à-dire que M. Lambert Mende pouvait nous priver de tous les moyens de communication. Parce que même avec les téléphones, il y en a qui font des coups avec les téléphones, qui tuent les gens à partir du téléphone. Ils se servent du téléphone pour tuer les gens.
Oui.
Donc, il faut aussi qu'on nous prive du téléphone. Je disais que tous les moyens de communication peuvent être utilisés pour faire du bien, mais aussi comme pour faire du mal. Et si vous utilisez ces moyens pour faire du mal, il faut vous mettre en tête qu'il y a des dispositions pénales qui vont faire en sorte que vous serez poursuivi et vous allez passer votre vie en prison. C'est pour ça que nous devons utiliser les moyens de communication de manière à préserver notre propre honneur, mais aussi l'honneur des autres, notre propre dignité, aussi la dignité des autres, et surtout faire en sorte que les personnes innocentes ne soient pas en fait préjudiciées à cause de nous. Je prends la femme du vice-gouverneur. Comment, quel est l'opprobre qui pèse sur cette femme dont on a vu le mari nu sur la place publique?
Et les images ont circulé le monde entier.
Oui. Maintenant, pensez par exemple aux beaux-parents du vice-gouverneur. Quel honneur! Donc, même eux-mêmes qui n'étaient pas dans le coup sont préjudiciés. Maintenant, mettez-vous à la place des enfants du vice-gouverneur.
C'est une grande humiliation.
C'est une grande humiliation. Donc, vous voyez que les actes que nous pouvons poser à titre personnel peuvent avoir des impacts au-delà de nous. Et ça, il faut y penser et éviter de poser ce genre d'actes.
Voilà, une autre réaction d'un auditeur, c'est Lambert Kalala. Il dit, ses adversaires cherchent plutôt à nuire à sa réputation en utilisant le montage. Malonga aussi, il demande, on doit parler de montage.
Non,
qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Non, d'abord, il faut dire que le vice-gouverneur lui-même a avoué être tombé dans cette affaire. Donc, il n'y a pas de montage. Ça, c'est de un. Je parle d'abord de la vidéo elle-même. La vidéo retrace une scène qui est vraie. Mais est-ce que, au lieu de parler du montage, on peut parler du complot qui était fait contre les vice-gouverneurs? Ça peut être un complot, mais pour arriver à cette conclusion-là, il faut que la justice nous aide. Que la justice, parce que nous parlons, mais nous n'avons pas fait toutes les investigations. Parce que nous nous arrêtons à la scène que nous avons vue. Mais avant cette scène, est-ce qu'il y a eu d'autres faits? Il y a eu d'autres actes? Vous voyez? Tout ça doit être analysé par notre justice. Je pense aussi que si les vice-gouverneurs n'avaient pas fait la cour à cette femme, si les vice-gouverneurs ne s'étaient pas transportés à l'appartement de cette femme, ses adversaires politiques ne se seraient pas ne l'aurait pas utilisé contre lui-même. Les adversaires politiques n'ont utilisé que ses propres actes, ses propres...
Sa faiblesse.
Ses propres faiblesses qui l'ont conduit là où nous voyons aujourd'hui.
Maître, un instant, on va terminer avec la question de Platini de Mbandaka. Bonjour Platini.
Je dis bonjour l'invité, bonjour tout le monde.
Quelle est votre question, rapidement?
Merci beaucoup aujourd'hui, je crois que je serai les dernières et je serai très rapidement. Mais dommage qu'ici chez nous, en Mbandaka, ça fait maintenant des jours qu'on ne reçoit pas la Radio Kapi. Mais maintenant, là, tout le monde ne suit pas la Radio Kapi. Alors moi, je voudrais avoir fait l'idée par rapport à ça, parce que tout ce qui vient d'arriver, je l'ai vu sous gouvernement du Congo central. Alors même si je fais allusion par rapport à une petite note que je l'ai fait sur le Facebook, est-ce qu'il y a réellement les preuves? Parce qu'on apprend que la dame, là, lui-même, elle est allée dénoncer que c'est son mari qui vit avec lui à tout moment. Je ne sais pas s'il y a une peine par rapport à ça. Et c'est comme le point veut maintenant sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, tout ça. Est-ce que réellement il y a un comité de suivi qui suive à tout moment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Voilà un peu ce que je voudrais avoir une idée par rapport à ça. Bien qu'on ne se
merci. Pas à la Merci. Et comment vous faites pour appeler? Ça veut dire que vous nous écoutez, Mbandaka?
Non, ici, ça fait maintenant des jours aujourd'hui que la Radio Kapi n'est pas, mais je suis
d'accord. Branché
parce que je vous suis sur l'Internet.
Ah, d'accord.
La Radio Kapi n'est pas, pas.
Merci. Maître Jean-Claude, vous avez la parole.
Bon, je me rends de plus en plus compte que notre société est en train d'aller dans une mauvaise direction. Pourquoi? Parce que même quand l'auteur du fait reconnaît les faits, les gens cherchent toujours des preuves. C'est comme en matière de corruption. Si vous dites telle personne est corrompue, on va vous dire où est la preuve.
Oui.
Même quand
tout est réuni.
Mais ce qu'il faut, c'est de laisser à la justice agir pour, évidemment, identifier les preuves. Et si les preuves ne sont pas là, la personne va être relâchée parce qu'elle est protégée par la présomption
d'innocence. Mais à cause de l'atteinte à la moralité publique, toutes ces autorités devaient déjà démissionner, d'après vous?
Absolument. Absolument. Mais vous voyez la tentative qu'elles ont faite pour se réconcilier, protéger leur poste. Mais Dieu merci, et je pense qu'il faut féliciter les députés du Congo central, les députés nationaux qui ont menacé. Il faut féliciter aussi les FCC qui a eu le courage de désavouer les deux gouverneurs, le gouverneur et les vice-gouverneurs. Je pense que ça, c'est quand même un acte très courageux de la part du FCC. Et je pense que tous les partis politiques, dans le cas de la protection de la moralité publique, chaque fois qu'une autorité se compromettra de cette façon, il faut agir comme les FCC et ne pas protéger les gens qui détruisent en fait notre jeunesse, qui détruisent notre pays.
Bien, Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Azado en sigle, merci.
Merci.